L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. D'un coup, voir que sort de la maison un jeune adolescent dans les 18 ans, grand, mince, blond, habillé de blanc, son visage est blanc comme la mort, et il marche sans rien voir, les yeux ouverts, mais qui semblent ne rien voir. Il a sur le visage et sur lui du sang. Malgré la nuit, Damien voit le jeune adolescent comme s'il était éclairé par une lumière étrange. Il est fasciné et a très peur. Il reste comme paralysé et voit l'adolescent marcher à lui. Un souffle à l'oreille de Damien lui dit qu'il est déjà mort. Il panique. Il se demande si la voix a voulu dire que c'est lui qui était déjà mort. Damien voit que l'adolescent s'approche de lui. Damien panique, marche en reculant, et quelque chose le fait tomber. Trou noir. Il se réveille, il fait jour. Il voit où il est et se souvient de la maison et de l'adolescent. Il panique et s'éloigne de ce lieu maudit. Après avoir couru pendant au moins une demi-heure, il tombe sur ses trois amis. Henri lui dit, « On t'a cherché toute la nuit. On ne savait pas ce que tu étais devenu. Que t'est-il arrivé ?» Damien lui dit, « J'ai marché pendant un long moment. Je suis tombé dans un trou et je me suis retrouvé devant une maison qui semblait abandonnée. De la maison, un jeune adolescent qui ressemblait à un fantôme avec du sang. Alors j'ai reculé, je suis tombé et je me suis évanoui. » Ils rient tous, sauf Ferdinand. Personne ne le prend au sérieux. Bernard lui dit, « Nous avons trouvé le chemin du retour. » Ils s'en retournent, tous épuisés. Ferdinand se met près de Damien, lui prend le bras et lui dit, « Je te crois. » Damien lui dit, « Nous parlerons de tout ça lorsque nous serons tous les deux. » Le voyage continue et Damien pense toujours à ce que la voix humaine lui a dit qu'il était déjà mort. Lorsqu'il est seul le soir à l'hôtel, il dit à Ferdinand ce qui lui est arrivé et Ferdinand le croit. Moi je crois aux revenants et puis moi, de temps en temps, j'ai l'impression d'être mort. Et puis, je ne suis pas de votre monde. Toi aussi. Tu n'es pas comme les autres. Quelque chose me dit que tu as pris l'âme d'un autre pour vivre sur cette terre. Damien se dit qu'il a peut-être raison. Et qui suis-je? Une âme qui s'est trompée de monde, lui dit Ferdinand. Damien lui dit, toi aussi, tu n'as pas l'air d'être à ta place dans ce monde. Ferdinand lui dit, je le sais depuis toujours et j'en souffre. Tous les trois n'ont plus envie de continuer leur voyage. Alors ils décident, c'est de retourner à Paris. Ils entrent à Paris et se disent au revoir à la gare. Damien dit à Ferdinand qu'il aimerait bien le revoir. Ferdinand lui dit, « Ne vous nuez pas, c'est pour ton bien. » Et ils se sont quittés. Son père est heureux de le revoir. Damien lui raconte ses aventures. Je lui dis qu'il a dû rêver. Damien pense souvent à Ferdinand et à leur conversation durant la nuit, et aussi aux fantômes. Je suis peut-être mort. Mort. Patrick lit l'histoire du prince et du pauvre. Il se dit qu'il est peut-être le pauvre et qu'il a pris la place d'un autre. Il se dit que maintenant, il mène une vie tellement haute que celle qu'il a vécue. Alors il est bien le pauvre et vit la vie d'un autre. Peut-être est-ce la réalité. Il demande à Marie, « Est-ce que je suis bien moi? Est-ce que tu es sûr que je sois moi? J'ai peut-être pris, malgré moi, la place d'un autre. » Elle s'est attachée à lui et ne veut pas savoir s'il n'est pas lui. Ce serait terrible. Elle pourrait se faire encore une fois une recherche ADN. Elle lui demande simplement, es-tu heureux avec moi? Oui. Alors pourquoi se poser de telles questions? Et puis moi, j'en suis sûr, oui, que tu es toi. Patrick n'est plus tellement sûr. Et puis au bout d'un moment, il se dit qu'il n'aurait pas dû lire ce livre qui lui a troublé l'esprit. Marie est passionnée et lorsqu'elle aime et veut quelque chose, c'est définitif. C'est comme lorsqu'elle ne voulait pas d'homme dans sa vie. Là, elle a décidé que Patrick serait son fils et c'est définitif. Même si de l'avoir près d'elle, cela quelquefois lui donne des complications. Damien se souvient, pense à la conversation avec Ferdinand sur Patrick et cela le trouble. Mais il se refuse de se poser des questions pour savoir quels sont les vrais sentiments qu'il a pour Patrick. Il se dit que c'est sûr que lui, il aime les femmes, les filles, que l'amitié, c'est autre chose. Damien poursuit ses études sur l'histoire antique et cela l'intéresse beaucoup. Il aimerait aller en Grèce et en Italie. Il a un professeur très intelligent, c'est une femme, Mademoiselle Lepic. Une quarantaine d'années, elle est grande, maigre, a un côté masculin et même sévère. Des cheveux grisonnants portés en chignon et des lunettes en métal. Porte un costume marine. Malgré son côté repoussant, lorsqu'elle parle durant les cours, Adrien se sent hypnotisé, fasciné par ce qu'elle dit. Il la trouve très intelligente et oublie son physique. À la sortie du cours, une fois que les élèves ont quitté la classe, il va la voir, malgré qu'elle ait un caractère dur et masculin. Elle est très intelligente. Damien lui dit qu'il aimerait discuter un peu avec elle et l'invite à prendre un verre. Elle fronce les sourcils, réfléchit et lui dit « Je veux bien, jeune homme !» Et ils sortent de l'université. Damien l'amène dans un café qui se trouve face à l'université. C'est un grand café où il y a beaucoup de jeunes qui y vont. C'est assez moderne. Ils s'assoient tous les deux à une table. Un serveur vient les voir. C'est un jeune homme d'un 18 ans, mince, habillé en serveur. Il leur demande ce qu'il désire. Elle lui répond « Un verre de rouge !» Damien est surpris. Alors il demande lui aussi la même chose. Il se dit que c'est dommage qu'elle soit laide. Et puis, elle a un caractère dur. Mais elle est tellement intelligente. Elle lui dit, « Il ne faudra pas trop tarder, parce que je n'habite pas ce quartier. Je suis de Montparnasse. J'ai une chambre et je vis seul. Je déteste la vie de couple. Je n'aime pas les hommes. Je suis militante féministe. » Il est étourdi qu'elle lui ait dit tout ça. Mais cela n'empêche pas de parler d'histoire antique et de la chute des civilisations. Il est passionné par ce qu'elle lui dit, mais elle a l'impression de faire un cours particulier. Elle lui demande « Pourquoi cherchez-vous à me voir? Je ne suis qu'une vieille femme laide. » Il lui dit « Parce que je vous trouve très intelligente. Et pour moi, l'esprit compte beaucoup. Merci. » Il lui demande, « Vous avez toujours vécu à Paris ?» Elle lui dit, « Non. Avant, j'ai habité Lyon. J'ai connu là-bas une fille très belle que j'aimais. Elle était folle. Elle a eu une relation avec un homme et s'est très vite trouvée enceinte. Je lui dis qu'elle était folle. J'ai eu un long discours avec elle et lui ai dit que c'était impossible qu'elle vive avec un homme, qu'elle pouvait s'occuper de son enfant sans un homme, que ça sert à rien un homme. Il fallait qu'elle rejette l'homme. Elle était très attachée à avoir un enfant et voulait le garder. Après de très longues discussions, j'ai fini par céder. Elle a fini par céder au nom de sa liberté. Elle a fini par céder au nom de sa liberté et décider de se débarrasser de l'homme. Oui, de se débarrasser de l'homme. Mais elle voulait garder l'enfant. Cette fille s'appelait Marie. Je l'ai vue encore plus quelque temps. Et puis, je l'ai laissé tomber. Elle n'était pas du tout féministe, cette pauvre fille. J'ai appris plus tard que son enfant lui avait été enlevé. C'est bien fait pour elle. Damien est surpris et aussi déçu. Il se dit que cette femme est bourrée d'idées reçues. Elle est même dangereuse. Ce qu'elle a fait à la pauvre Marie... De même, la forcer à se débarrasser de son homme, elle voulait aussi qu'elle se fasse avorter. Non, elle est dangereuse. Ses courses et du bluff. J'ai été bluffé. Il lui dit, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, mais il faut que j'y aille. Et il décide de ne plus la revoir. Jules travaille beaucoup car son patron veut prouver aux autres employés que si Jules lui succède, c'est parce qu'il est le meilleur. Alors, il lui donne énormément de travail à faire, du travail assez compliqué. Oui, du travail assez compliqué. Son patron organise une soirée. Jules y est invité. Il y va. Cela ne l'intéresse pas. Il n'aime pas du tout. Mais il est obligé d'y aller, comme les autres employés. Au cours de la soirée, où il y a beaucoup de monde, et Jules se sent un peu seul, après avoir vu son patron et sa femme, il ne sait où se mettre et quoi faire. Il se met dans un coin. Un verre de champagne à la main et regarde les gens aller, venir. Il se dit qu'il attend un peu, ensuite il s'en ira. Arrive à lui une femme blonde, grande, mince. Elle porte une belle robe argentée et a à la main une coupe de champagne. Elle se déplace avec beaucoup de grâce. Elle va à lui avec le sourire. Jules se demande qui est cette femme. Il n'a pas tellement envie de discuter avec quelqu'un. La femme lui dit, dès qu'elle est près de lui, « Bonjour, vous êtes seul ?»« Oui, moi aussi. » Il lui dit, « Je ne vais pas tarder à m'en aller. » »« Pourquoi ?» Il lui dit, « Parce que je n'aime pas tellement ce genre de soirée. Et puis je suis seul. » Elle lui dit, « Maintenant vous n'êtes plus seul puisque je suis là. Je m'appelle Brigitte Seguin. Jules Villeneuve. Et que faites-vous dans la vie ?» Je travaille dans l'entreprise Silver. Et vous? Moi, je m'occupe de la vente de parfums de luxe. Je viens de Bourgogne. Ça doit être très intéressant de vendre des parfums. Oui, assez. Mais j'aimerais avoir ma marque de parfum à moi. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. À cause de la crise, les banques sont frileuses. Vous êtes une vraie femme d'affaires. Oui, assez. Je dois vous avouer que s'il n'y avait pas mon travail, ma vie serait assez triste. Je vis seule. Et vous? Moi, je vais avec mon fils. Il a 25 ans et nous entendons très bien tous les deux. Il est un peu trop vieux pour vivre avec son père. C'est-à-dire qu'il poursuit ses études. Il est à l'université et prend des cours sur l'histoire antique. Ah, c'est très intéressant ça. Oui, assez. Vous me faites danser? Je veux bien, mais je vous préviens que je ne sais pas très bien danser. Ça n'a aucune importance. Et il l'amène danser. En dansant, il sent son corps, le corps d'une belle femme, bien faite. Et il est pris par elle et la trouve très belle. Cela fait longtemps qu'il n'a pas désiré une femme. Ils passent la soirée ensemble. Et se met de plus en plus à la désirer. Il lui demande, vous habitez à Paris?
J'habite boulevard Haussmann, un petit appartement.
Moi j'habite boulevard Malesherbes.
bout d'un moment, elle lui demande « Est-ce que vous voulez me raccompagner chez moi? J'en ai un peu assez de cette soirée. » « Je veux bien. » Ils sortent de la soirée sans que personne ne fasse attention à eux. Une fois dehors, il lui demande « Vous êtes venu comment ?»«
J'ai pris un taxi. »«
Je vous ramène, j'ai ma voiture. » Il l'amène à sa voiture, la fait entrer. Il lui demande en roulant, « Vous avez des amis ?»«
Non, je suis une petite fille bien sage. » »«
Et puis je ne connais personne à Paris. » »« Cela ne fait que très peu de temps que je suis à Paris. » Il la désire de plus en plus. Arrivée boulevard Haussmann, elle le fait arrêter devant un vieil immeuble cossu de 5 étages. Il sort de voiture et elle le mène dans son immeuble qui a une allée en marbre rose. Il y a des escaliers de pierre larges avec une grande rampe en pierre et un ascenseur ouvert. Elle lui dit « C'est au deuxième étage !» Et elle le mène à l'ascenseur. Une fois arrivée au deuxième étage, elle ouvre la double porte de son appartement. Éclair. Et le fait entrer. C'est un grand appartement de 4 pièces, très grand, meublé Louis XV avec des tapisseries beiges. Il y a du parquet sur le sol, des cheminées de marbre, c'est très beau. Elle le fait entrer dans son séjour. Il y a des portes-fenêtres qui donnent sur le boulevard, une grande cheminée. Le séjour est divisé en deux. Il y a le côté salon et de l'autre, c'est le côté salle à manger. C'est très classe. Il y a de grandes statues sur des socles en pierre. Elle lui demande « Cela vous plaît ?»«
C'est magnifique. Vous avez énormément de goût. »
Elle lui dit « Ce n'est pas moi qui ai meublé cet appartement. C'est l'ancien propriétaire. » Il était obligé de quitter la France. Alors il a tout laissé, ses meubles et ses bibelots. Ça aurait été beaucoup trop cher pour amener tout ça à l'étranger. Il va vivre en Australie. Alors moi j'ai pris le tout. En fait, c'est mon patron qui a payé une partie de la somme parce que c'est lui qui m'a muté à Paris. Mais je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. Et lui dit, oui, vous avez eu beaucoup de chance d'avoir un très bel appartement, bien meublé et bien situé. Félicitations. Elle lui dit, allons nous asseoir. Il la suit. Elle le fait asseoir dans un fauteuil en face d'une table basse. Lui demande, vous désirez boire quelque chose?
Oui, un bourbon si vous avez.
Elle lui dit,
Bien, je vais vous chercher ça. Elle s'éloigne pour aller prendre la boisson dans le coin bar. Puis elle revient déposer la carafe et deux verres sur la table basse. Fais le service. Lui tend un verre. Merci. Et s'assoit. Elle s'assoit en face de lui. Ils boivent une petite gorgée et elle lui demande « Ça fait longtemps que vous vivez avec votre fils ?» Il lui dit « Assez. Ma femme est morte lorsque l'enfant avait 2 mois. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.